Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti! Aujourd'hui, je suis avec Pierre Urban. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Je voulais t'inviter aujourd'hui pour parler de ce qu'on évoquait un petit peu en préparation de cet épisode, où tu me disais tu perçois une distorsion dans la perception du métier du développeur, et je trouvais ça vachement intéressant. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur cette distorsion que tu perçois?
Oui, carrément. Ben, en fait, pour moi, aujourd'hui, il y a une claire distorsion entre le métier qu'on croit être développeur et être développeur. Parce qu'en fait, il y a énormément de communications qui sont faites autour de tout ce qui est tout ce qui est perçu être le devoir d'un développeur. Et en général, les gens qui communiquent là-dessus, ce sont des gens qui sont très impliqués dans des startups qui sont déjà, ou même plus des startups d'ailleurs, des logiciels SaaS qui sont avec déjà des grosses équipes de cinquantaine de personnes, centaines de personnes. Et donc du coup, ces personnes-là, elles font souvent de la communication sur des pratiques et des standards qui sont nécessaires pour eux en fait, mais qui sont pas du tout nécessaires quand on est 10 personnes. Donc c'est un peu en fait le décalage qui existe entre l'univers startup et l'univers bootstrap / profitable, enfin / rentable en français, qu'on peut voir un peu se matérialiser avec, par exemple, les startups du style, je sais pas moi, par exemple Algolia, qui pourrait être vraiment l'effigie d'une licorne, tu vois, parce que pour moi c'est vraiment un super produit, un super super équipe. Et à l'inverse, t'as un bootstrap, on va dire un Basecamp, tu vois. Donc déjà les deux sociétés ont rien à voir. Il y en a une qui est une société à plusieurs milliards, enfin qui a le potentiel de devenir une société à plusieurs milliards, d'être valorisée à plusieurs milliards, et à côté t'as un logiciel de gestion de projet qui est fait par quelques, je crois qu'ils sont 20 ou 30, je sais plus, donc ça n'a rien à voir, quoi. Mais tu vois, en fait, l'avantage de Basecamp, c'est qu'il nous montre vraiment que c'est possible de travailler sans avoir à faire tout ce que font les personnes qui sont dans des équipes de centaines de personnes, notamment par exemple les tests unitaires. Est-ce que ça a du sens de faire 100% de tests unitaires lorsqu'on n'est que 10? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux?
Moi, j'ai une réponse qui est très claire. C'est clairement oui, même dès lors qu'on est 1. Mais parce que pour moi, les tests unitaires font gagner du temps, en fait. Et les tests unitaires, non seulement font gagner du temps, mais en plus résorbent la complexité du système. Donc pour moi, la réponse est clairement oui. Par contre, il y a une difficulté, c'est qu'il faut avoir appris à le faire. Et ça, les développeurs qui ne savent pas le faire peuvent percevoir ça comme un surcoût. Par contre, ce que tu dis me fait penser à d'autres choses. En fait, ce que tu dis en substance, c'est les boîtes qui communiquent le plus, les boîtes de tech qui communiquent le plus et qui définissent implicitement une espèce de standard sont des boîtes qui ont beaucoup de moyens. Du coup, est-ce que c'est vraiment malin de se comparer à ces boîtes-là qui ont des enjeux, des problématiques et des moyens différents? Je le vois plus sur d'autres enjeux comme par exemple, moi je vois beaucoup d'équipes, ils sont 1, 2 ou 3, ils ont 0 utilisateur et tout de suite partent sur des architectures microservices de folie, quoi. Et je me dis, mais ils vont payer le prix d'une complexité qui me paraît juste inadaptée à leurs besoins, mais simplement parce que c'est un phénomène à la mode, en fait. Je sais pas ce que t'en penses.
Si, je suis complètement d'accord, mais je suis étonné parce que pour moi, il y a une complexité quand même en plus à créer des tests unitaires dans la mesure où tu dois forcément écrire plus de code.
Oui, tu écris plus de code, mais tu écris plus de code en tout, quoique ça se discute parce que la base de code que tu écris, elle est moindre, mais surtout, tu vas beaucoup plus vite. Réfléchis au temps que tu passes à, par exemple, à utiliser un débugger. À coder en soi, tu vas peut-être aller aussi vite, quoique. Mais réfléchis à tout le temps que tu passes à venir vérifier que ce que tu fais marche bien. Ce temps-là, tu l'enlèves, en fait. Tu vois, moi, je peux développer pendant une journée entière sur une application web et pas ouvrir le navigateur de la journée. Donc, tu vois, on est sur des cycles qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Donc, ça, pour moi, ça accélère le développement très clairement. Donc oui, je vais écrire plus de code, mais comme je vais beaucoup plus vite pour l'écrire, en fait, au final, c'est rentable, et c'est rentable dès la première heure, en fait, pour moi.
D'accord. Parce que pour moi, enfin en tout cas quand je faisais des tests unitaires à l'époque, moi la chose pour laquelle j'avais arrêté, c'est parce que justement ça faisait que tu rajoutais quand même beaucoup plus de code, et donc du coup tu perdais du temps à bootstrapper quelque chose qui au final tu n'avais pas forcément besoin de tout vérifier dans la journée si ça marchait, puisque tu te souvenais quand même de ce que tu avais fait dans la journée. Et comme t'es tout seul à bosser sur quelque chose, t'as pas besoin forcément de tout tester. Je vois l'intérêt hein, des tests unitaires lorsque t'es plusieurs. Et encore, je pense que tant que t'es moins de 10, je pense que des tests sur le système suffisent, des tests fonctionnels. Mais des tests unitaires surtout, j'ai pas encore vraiment rencontré de façon de le faire qui permettait de justement gagner du temps, comme tu le dis. Donc je peux imaginer qu'effectivement, si t'as pas besoin de tester après en ouvrant ton navigateur, ça peut te faire gagner du temps, mais à vrai dire, j'ai du mal à voir comment tu peux tester quelque chose qui, sans ouvrir ton navigateur à aucun moment, dans la mesure où, par exemple, si tu fais du front-end, comment tu fais, c'est juste basé sur les divs et sur les classes, les ID et tout ça, ou c'est comment ça se produit?
Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas à un moment donné, tu vas ouvrir le navigateur quand même, hein. Mais tu vas le faire qu'à la fin, en fait, pour vérifier, pour te donner une idée du résultat final, pour t'assurer que les morceaux s'emboîtent bien. Mais au quotidien, moi, je sais que voilà, j'utilise très très peu le navigateur quand je code, même si c'est des apps web, quoi.
D'accord.
Et en fait, la manière que tu as de décrire la chose, elle est vachement intéressante parce qu'elle est, c'est la représentation qu'en ont les gens. Je parle de ça, je vais faire une petite page de pub, hein. Dans le module 4 notamment, qui est en cours de préparation, ou alors qui sera peut-être publié quand tu écouteras cet épisode, je parle de ça, je parle du fait que, en fait, ça demande de l'énergie d'acquérir ce mode de pensée, et tant que ce mode de pensée, tant que tu n'as pas eu un déclic, tant que tu ne l'as pas vécu, ça fait partie de ces choses où tu peux difficilement l'appréhender, le comprendre avant de l'avoir vécu. C'est ça qui est un peu perturbant avec le TDD, c'est que tant que tu ne l'as pas expérimenté dans une phase où ça marche, tu as du mal à te rendre compte. Mais une fois que tu l'as fait et que tu as compris, que tu as eu le déclic, c'est dur de revenir en arrière. Tu vois, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas coder sans. Et tu vois, je pose même plus la question à mes clients, vous voulez des tests ou vous ne voulez pas des tests, parce que tant qu'un développeur pose cette question, forcément, s'il y a une notion de surcoût qui est implicite, le client va te dire « je veux le moins cher », tu vois. Non, moi, très clairement, je ne pose pas la question, quoi. Est-ce que tu poses la question de savoir si tu mets à jour ton IDE ou ton système? Pourtant, tu vas le faire et ça va te prendre du temps. Ben oui, mais tu le fais parce qu'il faut le faire.
Oui, bien sûr, ça fait partie de ton service. Moi, je pense que de toute façon, c'est effectivement quelque chose qui mérite d'être creusé. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait quand même pas mal de tests parce que j'ai même pris des cours là-dessus sur le TDD et puis surtout même sur le BDD qui me semblait déjà beaucoup plus pertinent par rapport à la façon de faire accoucher en tout cas le client par rapport à ses besoins. Et encore, hein, j'en suis revenu de ces trucs-là. Et quand je faisais du développement.
Ah, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que t'en es revenu ?
Alors à l'époque, hein, moi c'était encore une fois, je fais mon papy. Hein, mais à l'époque, c'était avec Cucumber et des trucs comme ça. Et moi, en fait, j'en suis revenu parce que je considérais que c'était encore une fois une perte de temps. Parce qu'en fait, il vaut mieux passer une journée avec le client à côté. Et vraiment lui montrer directement les trucs auxquels tu penses et voir tout ça et garder en fait de côté les trucs qui vont être lourds à faire pour le faire apprendre en synchrone, mais en synchrone faire les choses qui sont structurantes et après tu gagnes énormément de temps, tandis que quand tu vas commencer à écrire, le cerveau humain c'est pas une machine qui émule super bien l'écrit et se projette super bien sur ce que pourrait être un logiciel, tu vois. Donc c'est quand même vachement puissant d'être à côté de ton client et de lui montrer les trucs directement plutôt que de commencer à écrire des choses sur des papiers, même sur des user stories.
Ce que tu veux dire, c'est que tu étais aussi rapide à le moquer et à le fabriquer en direct un premier prototype avec le gars qu'à lui faire décrire le truc en question, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, exactement. Ouais. Et au final, moi, mes clients, ils me payaient surtout parce que j'avais suffisamment de proactivité pour mettre de la valeur directement dedans et que comme ça ils gagnent du temps à spécifier les choses. Et je vais pas rentrer dans un mode avec moi-même où je vais écrire ce à quoi je pense, parce qu'en fait j'ai suffisamment de clarté sur ce que je fais grâce à mon expérience pour ne pas avoir à le faire. Après, je peux comprendre qu'une personne qui soit moins expérimentée, qui débute, qui est pas suffisamment de qui soit juste moins éclairée sur ce qu'elle veut faire, ait besoin de structurer les choses. Par exemple, j'ai travaillé avec pas mal de développeurs et j'en ai rencontré qui, même après 5 ans d'expérience, qui étaient bien confirmés, avaient encore besoin de mettre sur papier, de faire des diagrammes et tout ça, tu vois. Et je comprends, tu vois, ces différentes façons de fonctionner. C'est pas du tout pareil. Je pense que quand tu fais du produit et quand tu fais de l'architecture technique, c'est pas pareil.
Moi, la valeur que je vois à le faire, parce que moi, personnellement, je continue à le faire en mode BDD, elle est double. C'est d'abord que ça permet de provoquer l'échange, ça permet d'échanger. Et à un moment donné, de faire se projeter le client ou l'utilisateur dans quelque chose même de textuel, je remarque que ça permet de lever plein de trucs qu'il n'avait pas forcément vu avant. Et puis, il y a un deuxième effet qui se coule, qui est sympa, c'est que j'ai une recette qui est automatisée.
Ah oui, ça c'est sûr.
Du coup, si t'as pas ça, au fur et à mesure des évolutions du produit, comment tu fais pour vérifier que t'as rien cassé et que ton fonctionnel marche toujours ?
Parce que, en général, quand tu bosses tout seul, tu sais un peu ce que tu fais quand même. Et donc, tu sais si tu casses un truc ou pas, quoi. Donc, moi, ça m'arrivait peut-être quand j'étais junior, mais quand t'es senior, ça t'arrive plus, quoi. Moi, en tout cas, quand je codais encore, sur les 3-4 dernières années de ma seniorité de développeur, j'ai jamais eu de moment où je me cassais mes trucs tout seul, quoi. Après, quand t'as d'autres personnes et que tu travailles avec d'autres personnes, là, oui, bien sûr, et ça vaut le coup de faire des tests sur le système. Ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je trouvais que le BDD avait de belles promesses. Mais encore une fois, quand tu bosses tout seul, l'échange avec le client, tu le déclenches avec le fait que tu sois synchrone avec lui, en fait.
Yes. Moi, je t'avoue que la personne dont je me méfie le plus, c'est de moi-même.
Ah.
Et donc, moi, j'ai toujours peur de casser quelque chose. Donc déjà, ça me rassure.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, c'est vachement lié à la perception du risque. Parce que, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux types de développeurs. Il y a ceux qui acceptent de prendre un risque sur le fait de casser des trucs potentiels. Et ceux qui veulent pas prendre ce risque-là ou qui ont une perception de ce risque qui est énorme. Et par exemple, tu vois, j'ai déjà bossé dans une boîte où, c'était genre en, je sais pas, ça devait être en dizaines de millions de requêtes par mois. Il y avait un logiciel à l'intérieur de la boîte qui recevait et traitait plusieurs dizaines de millions de requêtes. Donc c'était un truc vraiment critique. Enfin, c'était en gros, si ce truc-là tombait, tout le business tombait. C'était des millions d'euros qui partaient en fumée, quoi. Et tout était détenu par le CTO qui n'avait fait aucun test sur quoi que ce soit. Et le mec, tu vois, il devait avoir une gestion du risque qui était genre phénoménale, quoi. Le mec, il se disait, bon, y a pas de problème, quoi. Si je modifie un truc, je sais exactement. Il connaissait tout, tu vois, de A à Z.
En fait, au-delà de la connaissance, j'aime bien ta vision du truc et je la trouve intéressante. Pour moi, je réalise en t'écoutant, c'est plus qu'une question de gestion de risque. D'abord, premièrement, j'ai envie de prendre aucun risque pour mon client, pour mon projet. Et déjà, en n'en prenant aucun, des fois, il y a des bugs qui apparaissent. Mais c'est surtout que moi, en fait, ça m'enlève d'une charge cognitive. Le fait de savoir que les tests vont récupérer ce qui pourrait casser me permet de complètement libérer toute l'énergie que je mets à réfléchir aux impacts potentiels de ce que je suis en train de faire. Et du coup, je me concentre vraiment sur le ici et maintenant dans ce que je suis en train de faire.
Ouais, bien sûr. En fait, moi, je pense que moi, par exemple, je sais que les effets de bord qu'il y a sur mes modifications, en général, je les ai en tête et c'est très, très rare. C'est-à-dire que même quand ça se matérialise, c'est pas un truc qui est énorme. Et en général, c'est récupéré par les tests qui sont fonctionnels. C'est-à-dire que vu que je teste le système, je sais que à la fin, il va y avoir forcément une partie du système qui va casser. Et quand je vais le voir que c'est cassé, je vais tout de suite me dire, mais qu'est-ce que j'ai modifié dans les 3 dernières heures ? Ah oui, c'était ça. Bon, boum, ça y est, j'ai trouvé le truc directement, tu vois. Et donc, pour moi, c'est juste une question d'effet de bord. Et donc, vu qu'il y a peu d'effet de bord dans ma façon de faire, le gain, en fait, potentiel, il est minime, en fait, par rapport au test du système.
Mais du coup, comment tu fais alors si tu as cette habitude? Ça veut dire que tu as travaillé essentiellement seul en fait sur tes projets? Quand tu étais dans une équipe, comment ça se passait l'échange avec les autres?
Alors moi, j'ai travaillé seul, mais aussi en équipe. Maintenant, je ne fais plus de code, hein, donc c'est plus d'actualité. Mais avant, ce que je faisais, c'est que quand je travaillais tout seul, je t'ai déjà dit, quand je travaillais en équipe, c'était principalement très, très, très isolé. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, une partie qui devait être faite par l'autre développeur, une autre partie qui devait être faite par moi, et ces deux parties-là, elles étaient silonnées. Il n'y avait pas de... Si tu veux, on pouvait même limite dessiner des API entre nous deux, quoi.
Okay, il y avait des périmètres clairement définis, donc c'est comme si tu t'étais retrouvé seul sur ta partie, en fait.
C'est ça, exactement. Et c'est comme ça que je gérais mes équipes. Quand j'avais mon agence web, c'est comme ça que je gérais mes équipes. Donc, en tant que directeur, tu vois, j'ai dû gérer peut-être... On est passé de 0 à 10 employés développeurs en un an. Et, il a fallu mettre en place des règles, tu vois. Et c'est comme ça que je faisais, quoi. Ça marchait bien parce qu'au final, on avait une code base qui était assez énorme sur certains projets. Et il y avait 3 développeurs dessus et ça posait aucun problème.
Ah bah écoute, c'est super intéressant. Je te remercie d'être venu et de nous avoir partagé ta manière de bosser.
Je t'en prie.
Si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où ?
Ils peuvent venir sur LinkedIn, sur Pierre Urban et Facebook Pierre Urban.
Merci d'être venu, Pierre.
Ouais, je t'en prie, Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, la perche est trop belle. Si tu as envie de te former au TDD, aux pratiques de l'artisanat logiciel, viens dans la Maison des Compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr et je te dis à demain.